إماك تري من داوي ولادك راهم خارجين يمشي وعلى الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاكل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين
اليوم الشعب ليبرال عالجرين
الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشرة سنين تدمر عشرة والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش
الشعب يبيل
يا بلادي بكا وكدموع ميساج قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكو هادو عشرين وحنا صابرين
يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر
Zouf Lewen, Sakhir Alikoum, bonsoir tout le monde et bienvenue à une nouvelle émission d'Alterna TV, votre rendez-vous politique de samedi. C'est la deuxième émission du jour. J'espère que vous avez pu voir l'émission diffusée en différé de l'entretien donc réalisé avec Mohamed Tadjadji, un nouveau concept, donc Hewar Ma'a. Donc à chaque fois, donc, on aura un invité ou une invitée. Et on lui posera des questions sur la situation, évidemment, dans notre pays. Bienvenue donc à la deuxième émission d'Alterna TV du jour, avec la thématique se rapportant donc à l'échéance de la présidentielle de 2024. Ça va arriver vite, on est à deux ans de cette échéance-là. On se pose les questions, comme un certain nombre d'Algériens et d'Algériennes, de ce qu'il faut faire. Est-ce que les forces du Hirak, c'est la question précise qu'on se pose, les forces politiques, les forces agissantes du Hirak doivent se préparer à cette échéance, soit comme le suggèrent certains, désigner un candidat commun, soit boycotter comme les Algériens ont été nombreux à le faire à la précédente élection, la mascarade du 12 décembre 2019. Qui a été boycotté aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Donc, on va débattre de ce sujet-là avec nos invités que je vous présente tout de suite. Donc, nos compatriotes, les militants et des citoyens algériens de la diaspora, Kamel Mokhtfi, militant connu du Hirak ici à Montréal. Marhaba Sissi Kamel. Monsieur Abdelaziz, mon ami Abdelaziz Ould Ali, qui va nous parler depuis Paris, militant aussi du Hirak très connu en France. Et avec nous aussi notre concitoyen Majid Jouahar à Sherbrooke. Sherbrooke est une ville du Québec aussi. C'est la première fois sur Alterna TV. Nous avons donc c'est un réel plaisir de recevoir Monsieur Majid Jouahar. Et comme vous en avez l'habitude, donc nous serons deux avec mon ami Mohand Arabi à échanger avec nos invités sur la thématique d'aujourd'hui. Donc d'emblée, je vous pose la question, donc quelle lecture rapide en 5 minutes chacun, peut-être moins, que vous faites de la situation politique en Algérie avant d'arriver à la thématique du jour. Donc Kamel, pour commencer, pour briser la glace, vas-y.
Merci Rabah, merci aux invités, merci Mohand, merci pour l'invitation. Amsalkhir alaikum, Azul Flawer, bonsoir tout le monde. La lecture qu'on peut faire de la situation politique en Algérie, il se trouve que nous sommes devant une date historique, symbole, qui est le 5 octobre 1988, qui nous rappelle les manifestations pour se libérer du système à parti unique, du régime de l'époque. C'est aussi des manifestations qui ont été préparées par une jeunesse assoiffée de liberté, assoiffée de vivre dans la dignité, assoiffée d'une évolution, d'un développement économique. Et pourquoi pas? Parce que nous avons les moyens, nous avons les cadres et nous avons les ressources naturelles et le pays reste à la traîne depuis l'indépendance. Donc, 1988 reste une date historique qui a permis à l'Algérie d'accéder au multipartisme. Donc, l'ouverture démocratique qui a été permise par suite à ces événements, par le changement de la Constitution de 1989, qui a donné la liberté de la presse, qui a consacré plutôt, n'a pas donné, elle a consacré la liberté de la presse, qui a consacré le pluralisme politique sous une forme d'association à caractère politique. Malgré ça, il y avait une certaine activité politique qui a été permise sur la scène. Et nous avons vu des journalistes qui étaient dans qui étaient dans la presse de l'État, donc la presse publique, qui ont créé des journaux indépendants, entre guillemets toujours, indépendants parce qu'ils dépendaient toujours de financement du système, donc du pouvoir. Malgré ça, il y avait une certaine liberté d'expression. Donc, des intellectuels, des journalistes, des militants s'exprimaient dans la presse. Il y avait la société, le débat s'était démocratisé. La société a eu l'occasion d'accéder à des informations, donc à enrichir sa culture politique. Et ça, il ne faut pas le rejeter du revers de la main, c'était des acquis. Ces acquis-là ont résisté même à la période sanglante des années noires, donc des années 90. Et durant cette période-là même, ces acquis-là ont été vécus, exercés par les militants, malgré que nous étions sous un état de siège, sous un contrôle militaire de la vie publique et politique. Donc, et nous avons vu ces libertés-là disparaître petit à petit vers la fin du règne de Bouteflika, qui a perverti toute valeur à coups de milliards et tout ça. Et nous avons vu l'extinction, la disparition de tous ces acquis après le coup d'État orchestré par Gaïd Salah quand on avait chassé Bouteflika de la présidence. Donc le Hirak, il est arrivé pour imposer un changement, mais nous avons vu l'appareil militaire carrément sortir de l'ombre et occuper la scène publique et dire maintenant, il n'y a pas de marionnettes, il n'y a pas de façade, c'est nous. C'est nous et rien d'autre. Et maintenant, aujourd'hui, nous assistons à la liquidation des journaux qui ont été créés, c'était des acquis des années de 5 octobre 1988, Nous assistons aussi à la fermeture totale du champ politique et médiatique. Et nous sommes actuellement, il ne faut pas hésiter de le qualifier, malgré que certaines conditions n'existent pas réellement pour qualifier cette situation, d'état de siège. Nous sommes dans un état de siège. Tout est contrôlé par l'armée et tout dépassement est jugé par dans un pôle antiterroriste, contrôlé par un pôle antiterroriste qu'ils ont créé. Donc, vous faites une activité à Bijaya, à Maaskar, qui est une activité d'opposition politique, vous êtes jugé à Alger par des tribunaux spéciaux qui ressemblent à ceux des années de plan de 90. Voilà la situation, comment elle est caractérisée. Merci.
Merci, Kamel. Wald Ali, Abdelaziz, Fadab.
Lik al-Fadl. تحية الجالية au Canada. Donc, il n'y a pas de petit endroit. Donc, à Montréal, vous êtes nombreux, mais visiblement, aujourd'hui, nous avons notamment la présence de notre ami venant d'un endroit ou d'un autre. تحية الجزائرية.
De Sherbrooke.
Sur,
voilà. Majid, de Sherbrooke, qui est une ville québécoise.
Voilà, de Sherbrooke. Donc, تحية الجالية الجزائرية à Sherbrooke. Partout où nous nous trouvons, nous sommes en communion. Donc, sur la diaspora, partout où elle se trouve, et sur les 1541 communes algériennes dans leur unité sociopolitique certaine. Kimab Kauna, les jeunes, en février 2019, le Hirak a démarré et il ne s'arrêtera pas du tout. Ça prendra le temps qu'il faudra, avec les hauts et les bas. Ce que notre camarade venait de faire comme synthèse, il n'y a pas besoin de surenchérir les uns sur les autres. C'est des faits qui parlent d'eux-mêmes. Qui nous revenons en octobre 88, ou là le 80, ou là nous revenons le 2001, ou là nous revenons n'importe quelle date, 63. Hado, يعني ما كانش حرج باش نقولوا القمع. Moustamar est de plus en plus fort. C'est aussi un indicateur d'affolement de ce système fini. Il n'y a pas de liberté d'expression. La presse est muselée, la presse est étouffée, la presse est tuée. Et il n'y a pas de liberté d'exercice politique. C'est-à-dire que sans rentrer dans les détails pour ne pas paraître favoriser un parti par rapport à un autre, Walakin, les partis ne peuvent pas participer à la vie politique. Il n'y a pas d'opposition possible. Ce que, avant d'aller vers le sujet du jour, l'Algérie se porte candidate pour être membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi à la commission
des droits de l'homme.
Alors, c'est marrant parce que nous continuerons, et là justement c'est notre unité, dans la diversité, nous soutenons ce que, au travers de la LAD, la Ligue algérienne des droits de l'homme, nous soutenons par exemple de Paris Riposte internationale. Nous avons toujours été partie prenante auprès des institutions internationales et nous continuerons à le faire. Alors, ce qui sera marrant, et c'est symbolique, le fait que l'Algérie devienne membre du Conseil des droits de l'homme et qu'elle reçoive nos rapports circonstanciés explicites, parce que nous sommes pour la transparence la plus totale. Et alors, quand ils reçoivent cela, j'ai même pas envie de dire charité ordonnée commence par soi, parce qu'ils commencent par eux-mêmes, mais l'Algérie n'est pas leur souci, ils la mettent en danger. Charité ordonnée commence par le peuple algérien. Donc, le Hirak continue, et puis on reviendra sur le sujet du jour dans un moment. Merci.
Merci, Abdelaziz. Majid, quelle est la lecture que tu fais de la situation politique dans notre pays? Encore une fois, bienvenue sur notre plateau.
Bissakhar alaikum, Mazouf Lawan, salam alaikum. Je tiens d'abord à vous remercier, Alterna TV, pour cette invitation que j'attendais depuis un bon bout de temps. Avant de commencer un petit peu à faire le constat ou à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord rendre hommage à votre canal Alterna TV que je respecte vraiment. Beaucoup, qui est, je trouve, c'est un canal qui est vraiment très professionnel, respectueux, inclusif, qui a tendance à inviter tout le monde de toutes les tendances. Ceci étant dit, je trouve que ça va être l'occasion justement de, entre guillemets, de torpiller le pouvoir algérien pour les induire à faire de l'expression démocratique, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que le pouvoir du réseau, le pouvoir de YouTube et de Facebook pourrait éventuellement servir d'alternative, justement, alternative pourrait servir d'alternative pour non seulement la diaspora, mais aussi les gens qui sont à l'intérieur du bled. Vu que tous les médias sont verrouillés là-bas, déjà, il y a quelqu'un qui a déjà proposé un lobbying de la diaspora, notamment canadienne, ici, notamment moi, je peux aller encore dans le sens de Altana TV, qui va devenir un canal, justement, démocratique, qui va servir de charnière entre la diaspora et la communauté à l'intérieur. Ceci étant dit, c'est-à-dire faire le lobbying, on est quand même une centaine de milliers d'Algériens ici au Québec, ainsi que la diaspora européenne. Ne serait-ce que chaque personne ne pourrait donner que 20 dollars par mois pour faire une cagnotte, de telle sorte que faire un canal de Altana TV qui va être un canal qu'on pourrait mettre sous référendum numérique si tout le monde va accepter à aller dans ce sens. Déjà, ça pourrait être un bon début concret, de telle sorte qu'il va amasser des fonds et puis tout le monde aura l'expression démocratique pour pouvoir justement parler de l'avenir de l'Algérie d'ici 2024. Et le but ultime surtout, c'est de pouvoir former un comité que j'appellerai moi-même un leadership team avec un seul boss qui sera présidentiable pour 2024, qui va être...
On arrivera à la thématique, Majid. Je connais un peu ta position, on y arrivera.
Oui, mais donc ça, c'est juste un petit peu... Moi, je suis beaucoup plus dans le terrain de mon background. J'ai déjà fait l'associatif, j'ai déjà fait le communautaire, j'ai même été un petit peu dans le politique, un petit peu dans ce sens. Même si les choses sont verrouillées, comme dans les pays tiers-mondistes, comme chez nous, c'est que l'avantage, nous, ici, avec l'affaire qui est arrivée, Lazare Zouimia et tous les autres qui ont été détenus en Algérie, on a l'avantage, on pourrait sortir le bâton de Canada Affaires mondiales, on pourrait faire la pression sur le gouvernement algérien de telle sorte qu'ouvrir rien qu'une petite brèche pour l'expression de la diaspora, ainsi inclure toute la communauté algérienne à l'intérieur, notamment les politiciens qui sont dans l'opposition. Mais tout le monde qui va être invité dedans, il faut avoir certains critères de telle sorte que les personnes qui vont s'exprimer, il faut d'abord qu'ils aient un programme politique, un programme économique, social, de telle sorte que pour faire sortir la crise de l'Algérie. Parce que moi, mon constat, pour être objectif, c'est qu'en 2024, c'est sûr que Tebboune il sera reconduit. Maintenant, si on veut, c'est sûr que ce n'est pas évident de pouvoir le détrôner en 2024, mais au moins s'y préparer pour 2029, avoir un présidentiable, ce serait vraiment intéressant, parce que sinon, ça va être 2034 ou 2039, ça va être encore une dizaine d'années, le cauchemar, moi je dirais le fantôme de Bouteflika qui va quasiment revenir. Pour 2024, selon certains médias que j'ai consultés eux-mêmes, il se peut qu'à l'ère d'Iri, il pourrait être imposé comme une alternative.
Majid, s'il te plaît, on va revenir là-dessus dans la discussion. D'accord. C'est notre thématique, l'échéance de 2024, c'est notre thématique. Merci beaucoup. Un mot, je ne sais pas si tu as terminé.
C'est juste pour finaliser un petit peu. Donc, c'est ça. Moi, ce que je propose, c'est un petit peu dans le sens que faire le Altana TV comme étant un lobbying de tous les Algériens pour l'ouverture démocratique et évidemment parler d'un leadership avec un boss qui va être présidentiel pour 2024.
Merci. Merci Majid. Merci pour les bons mots envers Altana TV. C'est vraiment apprécié. Mohand, un petit mot sur la conjoncture générale dans notre pays avant de poser notre thématique qui est celle de l'échéance de 2024.
Moi je ne dirais pas plus que ce qu'a dit Kamal, ce qu'a dit M. Ouldali, ce qu'a dit notre ami Majid. La situation, on la caractérise depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Le dernier épisode, on l'a vu avec le journaliste de Chorouk, et puis toutes les menaces qu'il y a sur la diaspora. On sait qu'il y a des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui souhaitent rentrer au pays, mais qui soit hésitent, soit décident de reporter leur voyage, donc la rencontre de leur famille. Ils n'assistent même pas à des événements importants dans leur vie, avec leur mère, leur père, leur sœur, leur belle famille, etc. Oui, la chape de plomb dont parlait Kamel, on la ressent même de loin comme ça. On la ressent. On a bien l'impression que l'institution militaire, comme l'évoquait Kamel tout à l'heure, il n'y a plus de rideau, il n'y a plus de voile. On le voit à Inani, même s'il y a un nom qui s'appelle le chef de l'État, il s'appelle Tebboune. Il y a un gouvernement, oui, ok, mais c'est les militaires qui décident de tout, y compris même parfois de désigner des walis à Tataouili Ben, là-bas, très loin. Ils peuvent donner leur avis sur cet aspect. Nous avons conscience de ça aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire que c'est non, eh ben, il est le bienvenu pour le débat. Mais nous, on pense qu'on est revenu à un temps du passé. Là, on a fait un saut en arrière en matière de pratique de gouvernance, si on peut se permettre cette expression technique, pratique de gouvernance. C'est de cette façon qu'on est en train de gouverner aujourd'hui l'Algérie. L'article 87 bis et le code de la fraude, c'est comme ça que le journaliste Chourouk a écopé. Encore, il est sous mandat de dépôt et la justification, on l'a trouvée dans une disposition, pas le 87 bis ou le code pénal ou le code de l'information qui devrait être la référence pour traiter des questions comme ça avec un journaliste. Ça donne une idée sur la situation où on est. J'ai envie de faire juste de répondre à notre ami tout à l'heure qui avait laissé un commentaire, Rahli Abdelmajid. Ça fait partie de ce commentaire-là. Lui, il se demande pourquoi on n'a pas invité des nationaux, c'est-à-dire, il dit un débat comme ça, ça concerne beaucoup plus des citoyens, des citoyens algériens qui sont au pays, dans la mère patrie. Et pourquoi on a ramené de Paris, pourquoi on fait parler des gens de Sherbrooke et de Montréal. J'ai envie de dire à notre ami Rahli, on passe des jours et des nuits à chercher des Algériennes et des Algériens pour venir parler sur Alterna TV et nous comprenons parfaitement pourquoi ils hésitent à venir s'exprimer ici. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de décrire comme situation politique de notre pays. Quand quelqu'un dit « Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, on l'a invité cette semaine, Rahli, Abdelmajid, cette semaine, كنا حابين نجيبوا ناس من الجزائر كنا حابين نجيبوا ناس من عنابه من بجايه il nous ont dit excusez-nous mais la conjoncture actuelle ne me permet pas de m'exprimer sur un média comme celui d'Alterna TV un média militant qui reçoit des algériennes et des algériens qui se battent depuis plusieurs mois depuis au moins le début du Hirak donc je te dis il y a pas d'inquiétude au niveau d'Alterna TV on fait pas passer les entre guillemets les expatriés avant de penser à des militants à des acteurs sociaux politiques qui sont établis au pays et qui se battent quotidiennement parfois dans le silence ils sont pas connus voilà ça c'est pour fermer cette petite parenthèse et finir de dépeindre la situation au pays je vous parle pas sur le plan économique hein. Tout le monde le dit tout le monde l'a exprimé à plusieurs reprises l'Algérie a un retard de 60 ans maintenant. On peut considérer qu'un personnage parmi les présidents, parmi ceux qui ont eu à prendre la destinée du pays depuis l'indépendance, a fait quelque chose au début, mais ce qui a été un travail de casse depuis des décennies a renvoyé l'Algérie en arrière. L'Algérie a besoin de revoir tout, son éducation, son économie, sa solidarité, sa politique étrangère, son armée, comment elle fonctionne, ses institutions politiques, on a tout à réapprendre. À mon avis, les hommes et les femmes qui se battaient pour libérer le pays aux années 20, aux années 30, aux années 40, même quand ils étaient idéologiquement différents, ils savaient se parler avec respect, avec fraternité. Ils pensaient ensemble au même pays, ils rêvaient au même pays, ils rêvaient à vivre ensemble dans le même pays. On a l'impression que les gens qui gouvernent le pays aujourd'hui, ils ne sont pas dans cet état d'esprit, loin d'avoir hérité de cet état d'esprit des gens qui ont préparé novembre ou les gens qui ont fait le mouvement national. Je le dis et je dis le mot avec désolation. On est 60 ans après l'indépendance. Voilà à quoi on est un syndicat ne peut pas faire la grève si un militaire, un chef de la sûreté a décidé qu'il n'allait pas la faire. Un journaliste ne peut pas publier un article librement si on n'appelle pas le poste police pour savoir si les deux colonnes qu'on a rédigées pouvaient passer dans Chorok, Al-Khabar ou là un autre journal. On est dans cette Algérie. Même au pire moment, les années 90, ça massacrait de partout, ça tuait de partout, ça assassinait de partout, y compris de la part, on peut le dire sans avoir peur aujourd'hui de poursuites ou de quoi que ce soit, y compris d'Algériennes et d'Algériens innocents qui ont été victimes d'actes de représentants des institutions de la République, en Algérie je dis. Je le dis aujourd'hui comme ça. À cette époque-là, des journalistes pouvaient écrire librement, librement sur des questions économiques ou sociales, voire politiques. Même si on le savait qu'en même temps, il y avait des services de sécurité qui suivaient ce qui se passait dans les journaux. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation pire. Ça a été rappelé tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'insister trop dessus. Mais j'aimerais maintenant présenter, je ne vais pas parler à leur place, ni leur prendre le temps. J'ai beaucoup de questions à propos de cette problématique. On a 2024 devant nous, moins de 2 années. Moi, j'aimerais poser à Kamel, à Aziz et à Majid la question. Il y a plusieurs questions. J'aimerais mettre des matériaux, j'aimerais mettre de la matière là-dessus. Est-ce qu'on peut aller à des élections dans un contexte comme celui qu'on est en train de décrire, et il est certain que ni Tebboune ni les militaires ne vont changer, ils vont encore tordre le bâton, je m'attends à ça, ils vont tordre le bâton, et si on le tient de l'autre côté, si on est assez fort pour le tenir, ça risque de briser, de couper. Dans une situation comme ça, j'ai envie de leur dire d'abord une question. Existe-t-il aujourd'hui une vie politique en Algérie telle qu'on l'entend, telle qu'on peut définir la vie politique? Il y a un parlement, il y a des partis. Est-ce qu'on peut parler de vie politique dans notre pays?
Merci, merci Mohand. Je rappelle juste pour appuyer le raisonnement de Mohand que l'un des premiers hommes politiques, l'une des premières personnalités politiques à avoir proposé d'aller participer à l'échéance de la présidentielle de 2024, c'est Rachid Nekez. Rachid Nekez a été condamné en appel en juillet dernier à une peine de 5 ans de prison. Il croupit dans les geôles du régime en Algérie. Il y a l'internaute Algérie libre démocratique qui répondait visiblement à Mohand, et pourtant Karim Tabou continue de s'exprimer régulièrement sur le Maghrebia. Effectivement, il y a Fethi Gharras aussi s'exprime régulièrement, mais Il a des ennuis réguliers. On peut dire la même chose d'Abdelkrim Zerilech et de beaucoup d'autres. Je rappelle aussi qu'on a diffusé, il y a 2 heures de ça, un entretien qu'on a fait avec Mohamed Tejadjit. Vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est sur la page Facebook d'Alterna TV, sur la chaîne YouTube également. Les militants, que beaucoup de militants continuent de se battre au risque de se faire arrêter une heure plus tard. C'est la réalité en Algérie. Donc, vas-y, Kamel, pour répondre à la question de Mohand.
Merci, Mohand, pour la question. Il est vrai que la question se pose. Existe-t-il une vie politique en Algérie? Il y a une vie politique dans la clandestinité, oui. Les militants ne peuvent pas rester sans rien faire. Les militants, ils sont vaccinés. C'est une maladie. Quand on est militant politique, on est devenu malade. Malade de la politique, on ne peut pas... Parce qu'un militant politique, c'est un syndicaliste de nature qui défend les intérêts du peuple, les intérêts de la nation. Et il voit toujours loin, il a une vision. Donc c'est ça un militant. Ce n'est pas un taré. Un militant n'est pas un fou. Le militant, c'est parce qu'il est malade à l'intérieur. Il y a un mal qui le ronge dans son cœur, dans sa tête, dans sa chair en entier, devant l'injustice, devant tout ce que nous vivons comme souffrance, alors que nous avons les moyens de vivre mieux. Qu'est-ce qui a fait que nous avons quitté l'Algérie? Moi-même, je vis au Canada, je vis à Montréal. Vous pensez que nous vivons au Canada réellement? Nous ne vivons pas au Canada. Nous travaillons au Canada. Parce que notre tête, il est ailleurs. Il est là-bas. Parce que nous sommes fous. Nous sommes malades. Nous sommes des militants. Il y a d'autres qui arrivent à se départir de cette idée-là, de l'Algérie, du changement. Ils vivent mieux. Ils trouvent la tranquillité. Ils vivent mieux. Mais il n'y a pas de vie politique en Algérie, une vie publique, une vie animée, activée. Pourquoi? Parce que le pouvoir a décidé qu'il n'y ait pas de vie politique, qu'il n'y ait pas d'opposition. Les tenants du pouvoir, ils veulent rester au pouvoir, ils veulent d'une opposition soumise au système, au lieu d'une opposition soumise à la volonté du peuple. Donc, le pouvoir, il est en train de résister. Il veut rester au pouvoir. Et Raïdir Shikour, moi, je ne veux pas partir. Nous sommes un groupe de personnes, dans le civil et dans le militaire, nous avons les moyens de rester au pouvoir, de désigner qui on veut comme président, de contrôler le Parlement et la Chambre, la PN et le Sénat, nous faisons des lois qui nous arrangent et dès que vous bougez, on vous met en prison. Dire mafik. C'est ce qu'il nous dit réellement. Nous sommes dans cet état de fait. Depuis l'arrêt du processus électoral de 1992 jusqu'à maintenant, le pouvoir ne veut pas lâcher. Il veut soumettre toute opposition, toute idée de changement à sa propre volonté. Vous voulez un changement? Nous allons le faire dans le cadre dans lequel on l'imagine. Vous n'avez pas le droit à la démocratie. Nous n'allons pas nous soumettre à la volonté du peuple dans le cadre des règles bien établies. Parce que cette affaire-là aussi, de volonté populaire, il ne faut pas la laisser dans son espace, dans son esprit vague. La volonté populaire, elle devient tyrannique quand elle s'exerce en dehors des règles préétablies. C'est ça la démocratie. C'est comme un jeu de football. On rentre sur le terrain, deux équipes, 11-11, un ballon au centre, on joue tout en gardant dans la tête qu'il y a des règles à respecter. C'est ça la volonté populaire. C'est comme ça que s'exerce la volonté populaire. Et le pouvoir ne veut pas de ça. La question qui se pose, le pouvoir a fermé le champ médiatique, il a fermé le champ politique, il ne veut pas. Et ça continue comme ça. Il va organiser les élections de 2024. Les élections en 2024, ils vont avoir lieu. Il va y avoir un candidat du système, que ce soit la reconduction de Tebboune ou un autre candidat. Mais ça va être toujours un candidat désigné par l'armée. Il va gagner les élections. Ils vont aller pour la suite organiser des élections législatives. On va les boycotter aussi. Ils vont faire passer leurs députés pour 5 ans. On va y aller vers des élections locales. On va les boycotter aussi. Ils vont faire passer leur poulain. Et on va avoir, comme ça, de manière perpétuelle, des éléments désignés par des cercles occultes pour diriger aux destinées du pays. Et nous, entre nous, qu'est-ce qui est fait? On se permet de rester derrière l'écran et on écrit des messages qui, à la limite, feront la schizophrénie. Comme par exemple, est-ce que vous croyez à la démocratie? Les gens commencent à apprendre la langue française et à décomposer le mot et à former des choses qui n'ont pas de sens. Démon et crassie. Non, mais soyons pas débiles, soyons conséquents. Jusqu'à quand on va laisser ce pouvoir se comporter de cette façon? Jusqu'à quand on va dire, on va s'exclure de la scène et dire que le pouvoir est le seul maître à jouer? Je sais que c'est ces gens-là qui écrivent des imbécilités pareilles. Soit ils sont inféodés au système, soit ils sont téléguidés par des officines, de DRS, je ne sais pas quoi, ils viennent polluer le débat. Oui, oui, la politique est un jeu de stratégie. La politique est un jeu de tactique. Je peux boycotter pendant 20 ans et participer une année après. Parce que j'ai réfléchi, j'ai tiré des conclusions et je dois m'actualiser. Est-ce qu'il y a une stratégie? La question, le débat qui se pose réellement, est-ce qu'il y a une stratégie de la part de l'opposition? Non, il n'y a pas de stratégie. Est-ce qu'il y a une idée qui mijote dans la tête d'une certaine élite politique pour en prévision des élections prochaines ou même avant? On ne sait pas. On ne sait pas parce que le débat, il est fermé. Il y a une chape de plomb qui empêche les gens de réfléchir en groupe, de se rencontrer, d'échanger, de trucs. Inviter quelqu'un qui habite en Algérie pour qu'il participe dans un média comme Alternative est devenu dangereux. Oui, c'est vrai, quand quelqu'un, un père de famille, fait de la politique, il va se retrouver demain en prison, il a peur. Le pouvoir, il a imposé la terreur. Il a réussi. Il a réussi à imposer la terreur. Il s'est donné les moyens juridiques dans l'article 97 bis. Celui qui bouge, il revendique la démocratie, il revendique le changement de système, il est taxé de terrorisme. Il est traité par le pôle antiterroriste.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Kamel? C'est ça la question,
on justement, arriver, par rapport à 2024. On va arriver à cela. Ouais. On va arriver à cela. Donc, il faut juste combattre la peur qui est en nous. Il faut juste se rappeler comment on était à partir du 16 février 2019. Nous étions dans une position de dégagisme. OK? Système dégage. Et nous sommes rendus dans une position de supplication. Vous avez vu le changement? La courbe, elle descend. Elle descend. Nous étions dans une position radicale de dégagisme et nous sommes dans une position de supplication. Nous implorons le système à libérer les détenus. Nous implorons le système à faire des choses pour améliorer la situation économique et sociale de l'Algérie. Nous sommes en train de nuancer notre discours. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Et la peur est quelque chose de normal. C'est la peur qui nous guide à réfléchir. Donc, nous avons peur, mais ça ne veut pas dire que nous allons lâcher. Qu'est-ce qu'il faut faire, Reba? Qu'est-ce qu'il faut faire? La question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'est pas. Il ne peut pas venir juste de moi, ou de toi, ou de quelqu'un d'autre, individuellement. Il s'agit d'abord d'étudier la question de la situation actuelle et de construire un discours qui va déconstruire le discours qui inhibe les initiatives. Parce qu'actuellement, nous sommes inhibés par le discours négatif. Ah, pourquoi participer aux élections? Vous êtes un traître, vous êtes un vendu, vous êtes un lièvre, vous êtes ceci, vous êtes cela. Là, le Chili a donné l'exemple. Pinochet s'est imposé avec sa constitution en 1980. Il a fermé le jeu. Vous ne pouvez rien faire. Les Chiliens ne pouvaient rien faire. Mais ils l'ont battu à son propre jeu. Pinochet a été battu à son propre jeu. Et ils ont dit, voilà. Nous ne pouvons pas à chaque fois fuir le terrain parce que le pouvoir ne veut pas lâcher. La question que je vous repose, est-ce que nous allons attendre à ce que le pouvoir décide de nous donner la liberté? C'est ça que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on attende à ce que le pouvoir... Et quand j'entends ces pseudo...
conclue Kamel, s'il te plaît.
Je vais conclure. Ce qui est, parce qu'on entend encore parler de pouvoir qui manque de volonté politique. Je l'ai toujours dit dans mes interventions. Le pouvoir a toujours la volonté politique. Il ne manque pas de volonté politique. Il a la volonté politique de rester au pouvoir et de vous empêcher d'exister dans l'opposition. C'est ça sa volonté. Ne demandez pas à ce que le pouvoir ait la volonté politique de changer l'économie pour que le peuple... Parce que le pouvoir, il faut se rendre à l'évidence, ne pourra pas changer l'économie nationale de telle sorte à offrir un bien-être social au peuple. Pourquoi il ne peut pas? Parce que l'économie, elle doit sortir du dirigisme. Elle doit sortir de l'économie administrée. Si on ne donne pas la liberté d'initiative aux détenteurs de capitaux, si on ne donne pas la liberté d'initiative aux entreprises publiques de créer, si on exerce un contrôle, une pression, parce qu'on contrôle l'argent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Le pouvoir, il a peur de l'argent du privé. Il a peur des institutions, même publiques, qui créent de la richesse, qui ont de l'initiative, qui avancent sans contrôle d'en haut. Donc le pouvoir, plus il contrôle, plus il inhibe le développement économique.
Merci,
plus il lève son contrôle, plus il se débarrasse de son contrôle, plus il libère l'initiative, plus l'économie se développera. Donc, l'économie, elle est reliée au changement du système de gouvernance.
Voilà. Merci. On reviendra. Merci beaucoup. Merci. Abdelaziz, pour la question de Mohand. Tfaddal.
Likel fadl. Merci. Moi, je donnerai deux éléments, donc sur deux dimensions. L'une porte sur les dangers de la continuité de ce système et qui induit avec cela un discours politique pour que les Algériennes et les Algériens entendent qu'il y a quelque chose de consistant derrière cela, c'est-à-dire que c'est un peu une offre politique sans que ce ne soit partisan. Et toute la complexité est là. Donc les dangers, d'une part, sur la première dimension, les dangers de la continuité de ce système, et sur l'autre dimension, j'évoquerai l'action. Nous nous projetons dans le Hirak phase 2. C'est une nécessité pour les démocrates que nous sommes tous ensemble, j'entends. Ce n'est pas une appropriation ou une prétention, c'est une invitation à ce qu'on le soit de façon effective et organisée. C'est le cas déjà, plus ou moins, mais pour aller éventuellement, et ça va vous plaire, d'envisager ensemble les formes de structuration possibles. Sur cette idée d'action et de penser à la phase 2, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour évoquer LFPA, la Fondation pour l'Algérie, qui est une association naissante à Paris, en toute transparence, et qui porte comme vecteur, de façon simple, la transparence et les libertés. Vous imaginez qu'elle est portée par des réseaux qui ne peuvent pas s'annoncer. Les réseaux, par essence, ce n'est pas une affaire d'occulte. Hein. C'est les militantes et les militants sur l'Algérie, dans la diaspora. Et donc, c'est en train de se construire en toute transparence et aura tous les éléments correspondants. Nous sommes présents notamment à la place de la République. Autant nous l'avons toujours été dans le cadre du Hirak à Paris, autant la LFPA est présente avec chaque fois de façon très courte des éléments la concernant et qui pense à l'apport de la diaspora, le rôle de la diaspora. Et nous sommes un prolongement des 1541 communes. Hein. Avant, quand il y avait 48 wilayas, nous avons toujours dit que c'est la 49e wilaya, le Mahjar. Donc, sur l'idée de passer à la phase 2, mais ce n'est pas, et là il faut bien entendre notre discours, en l'occurrence qui consiste, qui surtout ne consiste pas à dire « rejoignez-nous », qui consiste à dire « voilà, nous exposons un rôle parmi les rôles, même au sein de la diaspora ». Ce n'est pas une façon de dire « venez, suivez-moi ». Je pense que ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Le fait qu'il y ait eu tout ce temps, les gens se sont exprimés, les gens ont des méfiances. Et puis c'est normal, la démocratie par essence, c'est cela, il y a diversité. Donc nous appelons à ce qu'il y ait une pensée par contre pour quel rôle efficient je peux avoir parmi l'ensemble des rôles. J'ai envie de dire, il y en a pour toutes les Algériennes et pour tous les Algériens. Donc à retenir pour l'action, et vous voyez bien que je prends la précaution de ne pas la présenter comme étant la solution, qu'elle fera partie, elle est là, à l'écoute, LFPA est à l'écoute, LFPA soutient l'ensemble des actions, qu'elle soit partie prenante ou que ce soit des actions auxquelles elle n'a pas pensé, ni donc des personnes qui la portent, que ce soit d'Algérie ou dans la diaspora un peu partout dans le monde, notamment là où il y a de fortes communautés algériennes, mais nous ne sommes pas pour le nombre. Nous sommes pour, comme annoncé, pour la transparence, pour la liberté d'action. Donc, partout où nous nous trouvons, nous devons penser à cette idée, que puis-je faire pour qu'il y ait justement cette forme. Il y en a qui diraient coagulation, il y en a qui diraient, j'aime bien ce que j'ai toujours développé comme... dans des écrits qui ne sont pas sortis parce qu'ils devaient sortir avant le début du Hirak, mais comme il y a eu le Hirak, je pense qu'il a pris le dessus surtout pour la politique et le basculement en Algérie. Donc, il faut toujours se mettre à sa juste place. Je parle de convolution de la solution par le peuple, au sens où le Hirak horizontal restera horizontal. Donc, en soi-même, ce n'est pas un parti politique qui va présenter un candidat. Ceci étant, les candidats sont nécessairement parmi... la société algérienne, qu'ils soient dans des partis politiques, dans des associations, dans de futurs partis politiques, qui n'attendent pas de prendre liberté pour agir pour que l'Algérie bascule démocratiquement. Je reviens à la première dimension, et j'interagirai par rapport à cette dimension donc d'action, mais d'action au sens où personne ne vient dire « rejoignez-moi, c'est moi qui suis en train de faire ». Et je pense que sur ça, on sera prudents tous de montrer notre ouverture et notre arrivée horizontale et accepter qu'il y ait encore des actions et des réactions sans prendre tout le monde comme étant un contre-révolutionnaire, mais de dire les gens se posent des questions légitimes avec des risques possibles et donc continuer de communiquer, d'échanger et de faire monter tout cela. Je suis content qu'il y ait des actions, je suis content bien sûr qu'il y en a, puisque la vie politique, quand vous dites elle est inexistante, c'est juste malheureux, c'est vraiment lamentable, parce que l'action politique, oui, dans la clandestinité, maintenant dans la clandestinité, elle se trouve fortement pénalisée et inopérante, puisque les gens ne peuvent pas bouger, et par conséquent, le résultat souhaité, attendu, à savoir l'action et l'information, ne serait-ce que l'information pour le peuple algérien, elle n'y est pas. Les gens ne savent pas qu'on peut avoir des propositions construites et sérieuses. Pour la partie danger, mais là aussi nous restons dans un rôle politique qui ne vient pas se mettre au-dessus du peuple algérien, c'est-à-dire qu'on partage l'information et ce que chacun pense, il a le droit de l'exprimer. Donc, c'est à ce titre que je m'exprime. C'est à ce titre aussi, tout en restant porte-parole pour LFPA, car je le suis, que je dis, pour la partie danger, notre discours politique consiste à dire ce système actuel, et qui est le même depuis 62, je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit. Nous avons fait des émissions, notamment sur des chaînes et d'autres. Nous avons publié, d'autres ont publié des choses liées au 5 octobre 88 et sur... d'autres événements majeurs, et c'est un événement majeur. Et l'idée du danger que présente ce système, c'est qu'en 2024, il y ait une autre mandature, c'est-à-dire c'est renvoyer à 5 ans plus tard l'idée d'envisager une possible ouverture démocratique, ne serait-ce que revenir aux libertés qui étaient décrochées par grâce aux jeunes de 88 quand ils se sont soulevés et que personne, je le rappelle quand même, vous me direz, on est humain, on véhicule ses propres idées, que personne ne s'approprie.
Tu peux conclure, Abdelaziz ?
Bien sûr. Donc, dans les dangers, ce système, les dangers sont de tous les ordres. Je ne chercherai pas à parler du domaine économique, je parlerai quand même un petit mot sur la politique générale du Premier ministre du pouvoir de fait, qui trouve que des prétextes à tout ce qui n'a pas été, parce que la pandémie, parce que la guerre en Ukraine, mais il a oublié de dire merci, c'est malheureux à dire, mais merci la guerre en Ukraine, on a un excédent commercial de 9 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas sur l'économique parce qu'il n'y a pas d'adhésion. Parce que pour l'économique, nous n'y serons pas quand nous n'avons pas les libertés d'entreprendre, les libertés de réfléchir à l'université, les libertés sous toutes ses formes. Et ce qu'il y a de dangereux avec ce pouvoir, s'il se poursuivait, c'est qu'on arrive à 2024, on est à plus qu'à mi-mandat. Mm-hmm. Plus qu'à mi-mandat est un échec cinglant. Et il n'y a pas d'adhésion du peuple. Et être Premier ministre, tout ce gouvernement, tout ce pouvoir, dire qu'il est désolé que les Algériens trouvent la vie difficile. Eh bien, dans un pays qui se respecte, quand je suis d'une tendance politique et que j'ai les rênes, il faudra savoir dire, voilà, je démissionne. Ce n'est pas le cas. Donc, mm-hmm. ils nous conduiront à 2024. Là, c'est vraiment la phrase clé par rapport au danger pour nous parler d'un simulacre d'élection, mais nous devons, attention, je ne viens pas de dire par là dire que LFPA soutient l'idée qu'il faut boycotter, mais le processus électoral en Algérie n'est pas conforme. Ces cinq étapes de processus électoral, le tout premier, la toute première étape d'une élection n'est pas respectée, à savoir que les partis puissent s'exprimer, que les Algériennes et les Algériens sachent de quoi ils s'en retournent, et nous aurons occasion au sein du Hirak de développer tout cela autour de ces dangers. Je dis bien danger et non pas risque d'envoyer très loin et retarder l'Algérie, parce que par exemple, l'une des dimensions de danger, la seule, et vraiment je finis sur ça, si je prends l'école algérienne à deux vitesses, telle qu'elle est maintenant, nous allons avoir une petite catégorie d'Algériens favorisés, qui seront en fait des néocolons. Je dis bien ça, ils n'auront d'Algériens que le sang, parce qu'ils ne feront ni économie, ni industrie, ni développement de l'Algérie. En revanche, ils se comporteront comme des néocoloniaux au service des intérêts de pays qui savent défendre leurs intérêts pendant que l'économie algérienne est ruinée et que le danger, c'est que la majorité des jeunes Algériens, quand on en voit ça à très loin, vont nécessairement refaire un 88. Et tout ça, par contre, dorénavant, depuis 2019, il ne faut pas oublier, c'est dans le cadre de cette révolution qu'est le Hirak, car c'est une révolution depuis 2019 et elle durera le temps qu'il faudra.
Comme ça. Merci Abdelaziz. Majid, pour la même question de Mohamed, je connais un peu ta position, je le disais, mais pas forcément ceux qui nous regardent. Vas-y.
Moi, je suis vraiment content qu'Abdelaziz a parlé de l'FP, de la fondation qui est à Paris. J'estime que c'est quelque chose qui est vraiment très concret. Ça me donne l'idée justement de pouvoir travailler en collaboration, comme à mon idée que j'ai proposée tantôt à Alternative TV, qui pourrait être un canal d'expression pour tout le monde. Donc, si on pourrait agir dans ce sens de façon concrète par la LFP qui est en Europe et l'Alternative qui est en Amérique du Nord, beaucoup plus au Québec, de telle sorte que déjà, ça pourrait être quelque chose de concret qui éventuellement pourrait inviter, via le canal évidemment, tous les opposants de l'Algérie, ne serait-ce que Tabou, RRS, et enfin tous les gens qui sont en train de s'exprimer ou qui s'expriment de façon anonyme, de faire la collecte des données, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans l'opposition, pourquoi pas ne pas les accueillir dans Alternative pour savoir c'est quoi leurs préoccupations, par exemple pour 2024, et aussi dégager un présidentiel, parce que s'il est vraiment très important d'avoir un seul candidat qui va essayer de détrôner le 2024 Tebboune. Et moi, personnellement, j'y crois, ça peut être possible à condition qu'il y aura d'abord l'unité de tout le monde et que l'intelligence du réseau et du Facebook, et etc., du numérique, pourrait faire bien des surprises. Une fois que maintenant un présidentiel sera désigné, on va le mettre au référendum numérique à travers la diaspora, évidemment, les nationaux à l'intérieur. Il suffit d'avoir un pourcentage, mettons, de 65 à 70% d'approbation et aller de l'avant. Une fois que la personne est devenue présidentielle, et c'est là où va rentrer en contact justement la LFP et l'Alternative.
Pardon, LFPA, la Fondation pour l'Algérie.
LFPA, ok, oui, merci de me corriger. La LFPA et Alternative de pouvoir soutenir ce présidentiable de façon réglementaire. Par exemple, on pourrait virer de l'argent d'ici. Je sais qu'au titre associatif en Algérie, on pourrait pas, on n'a pas le droit de virer de l'argent à titre associatif, mais à titre personnel, maintenant, si on va un 20 dollars, un 100 dollars à quelqu'un de confiance et que lui, il pourrait soutenir le présidentiel d'une forme réglementaire, ça pourrait déjà rentrer un petit peu dans une façon de soutenir un présidentiel comme ça se fait là-bas. Maintenant, c'est pour revenir un petit peu à ce qu'il a dit Kamel, il faut essayer de rentrer dans le jeu du pouvoir de façon intelligente. Il faut utiliser leurs propres armes à leur détriment. C'est sûr que il doit y avoir un texte dans la Constitution qui garantit la liberté d'exercer. Il suffit de récolter les signataires, etc. Il faut rentrer un petit peu dans leur moule, sans pour autant être un lierre, mais rentrer dans le système d'élection pour 2024, accepter les conditions du faire. Mais évidemment, il faut que les détenus soient tous, par exemple, sortis. Ça va être une condition sine qua non. Si, évidemment, c'est sûr que le pouvoir va pas accepter pour faire ça, là, par exemple, on pourrait faire des pressions de la diaspora sur notamment le département US américain ainsi que la Chambre des communes, Affaires mondiales canadiennes, mais aussi les ambassades US aux États-Unis. Moi personnellement, depuis 2020-2021, j'envoie des tweets à la présidence ainsi que Toubon et Lamamra et tout le kit. Je sais que si je rentre au bled, je vais être grillé, mais moi, je donne mes observations de façon constructive. Tout ce que je dis là, je l'ai déjà dit là-bas, de telle sorte que ce qui importe maintenant, c'est de sauver la patrie du danger qu'est-ce que ça fait. Parce que le pouvoir eux-mêmes, ils sont vraiment très malins. Ils ne peuvent pas laisser la clé sous le paillasson à l'opposition, bienvenue, on vous donne le pouvoir. Il faut que l'opposition, quand même, elle doit s'exprimer, donner un présidentiel qui doit avoir une feuille de route avec un programme économique. Ça, c'est le plus important d'abord. Parce que ce n'est pas normal qu'en 2022, il y a le Zit ou le Halib, on fait la Chine par rapport à ça, alors qu'on est quand même la risée du monde par rapport sur ce genre de choses. Et les opposants, c'est sûr qu'ils vont être... Ils vont avoir peur de s'exprimer, sinon ils vont revenir en prison, etc. On pourrait le faire de façon intelligente, par exemple, faire des pourparlers secrets avec les personnes qui sont dans l'opposition, au lieu que ce soit les personnes elles-mêmes qui vont être interviewées, par exemple, dans Alterna TV. Ils peuvent désigner des personnes citoyennes normales, mais façon de dire qu'ils travaillent pour ces gens d'opposants, si vraiment ils ont peur pour ça. À partir de là, et ils vont collecter toutes les informations, aller de l'avant. Et à partir de là, que si le présidentiel, il est connu et puis qu'il est approuvé sur le plan numérique, ben, dans 48 ou Wilaya, on pourrait faire une équipe de ce présidentiel, quitte à surveiller, évidemment, le jour J pendant les présidentielles. Mais avant, il faut donner la crédibilité aux opposants sur le terrain. Ils ont 2 ans à montrer qu'ils sont proches du peuple, par exemple, en faisant des actions bénévoles. Faisant, par exemple, aller vers les personnes qui sont dans le besoin. C'est quoi? Collecter leurs besoins, leurs nécessités, leurs problématiques. Faire, par exemple, du bénévolat, nettoyer, c'est pas moi, les rues, nettoyer, par exemple, le prochain été, des feux, se préparer à la préparation. C'est pas moi, de telle sorte que les opposants, ils vont avoir l'approbation, l'estime de tout le peuple algérien. Ils vont dire que non seulement, ils vont donner un certain espoir, de telle sorte qu'ils seront... Ils peuvent se pencher vers eux autres parce que le pouvoir, il peut acheter les votes de tout le monde, comme ça a été dans 2019. Il faut reconnaître que le peuple algérien, on n'a pas cette culture démocratique, on n'a pas cette culture encore comme dans nos pays démocratiques. Il faut attendre encore, ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Il y a le numérique qui est en train de faire éduquer, apprendre un petit peu le peuple dans ce sens. Donc, moi, personnellement, je pense que ça peut être faisable d'ici 2024, à condition que d'abord tous les opposants doivent être unis en formant un seul bloc, leader team, qui va présenter un seul présidentiable avec une feuille de route. Évidemment, le leader team doit être entouré d'entrepreneurs, de patrons et d'avocats et des gens qui représentent la loi, de telle sorte qu'ils vont donner, ils vont dire au pouvoir, voici notre présidentiel, vous n'avez pas à dire qu'il ne répond pas aux critères, quoi que ce soit. Il faut que ce soit quelque chose de béton qui va être présidentiel, qui va donner beaucoup de chance et un bon espoir pour 2024, ne serait-ce au moins 2029.
Merci, Majid. Mais j'ai l'impression que vous ne répondez pas à la question de Mohand, parce que Mohand, il a brossé d'abord le tableau de la situation en matière des libertés fondamentales dans notre pays. On a cité plusieurs exemples où les personnalités politiques n'ont pas la liberté de s'exprimer. Il y a un parti qui a été suspendu, le PST, pour ne pas le citer. Il y a le RCD qui est harcelé quotidiennement. L'ancien président est poursuivi. Le nouveau président, il a des affaires en justice. Le MDS a des ennuis aussi liés à son chef, mais aussi liés à l'utilisation, à l'ouverture de son siège à Alger, donc à des collectifs citoyens. Vous parlez de il faut que l'opposition s'unisse, discute, désigne un candidat, mais elle n'a pas physiquement déjà la possibilité de se réunir. Chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'organiser, par exemple, les assises pour le PAD, des Sabures depuis 2 ans maintenant, ça n'a pas été possible. Il n'y a que les partis qui soutiennent d'une façon ou d'une autre le pouvoir, qui ont la liberté de faire des meetings de façon libre. Comment peut-on caroir de façon, je dirais, sérieuse l'idée que ça peut être une possibilité que dans 2 ans, l'opposition puisse présenter un candidat unique, en supposant qu'elle arrive à s'unir et à désigner un seul candidat qui va faire face au candidat du régime. Ça n'a pas été possible en 2019. On sait que le peuple a rejeté de façon massive la mascarade. Ça n'a pas été possible à l'élection législative qui l'a suivi l'année dernière. Ça n'a pas été possible avant, en 99, lorsque Bouteflika a été intronisé. Il y avait 6 candidats qui ont dû se retirer, et des grosses pointures à l'époque. Je lis les commentaires de M. Mahanna Abdeslam. J'imagine que vous le connaissez, c'est un universitaire aussi qui a eu beaucoup d'ennuis avec la justice, qui dit que le Hirak va soutenir, attend une proposition, il va soutenir donc une proposition, il semble être en faveur de la désignation d'un candidat unique. Il dit le monde du Hirak attend une proposition de sortie de crise, il adhérera si la solution est construite pour l'ensemble de notre classe politique. Il dit que dans un autre commentaire qu'on ne peut pas, boycotter l'élection prochaine. Mais il n'y a pas un minimum de conditions d'exercice des libertés fondamentales qui puissent exprimer, permettre aux Algériens de dire ce qu'ils veulent faire de l'élection. Comment on peut envisager à moins de 2 ans, à 2 ans exactement de cette échéance, cette possibilité, Kamel d'abord?
Oui, Rabah, tu m'as cherché avec cette question. On cherche les conditions idéales pour organiser des élections. C'est comme si le pouvoir...
Non, j'ai pas dit idéal, les conditions minimales.
Les conditions minimales, c'est voilà, comme si le pouvoir il est prêt à lâcher et à accompagner le peuple dans son choix et ensuite se retirer et aller en retraite. On n'est pas dans ce cas de figure. Le pouvoir ne quittera pas. Il est là. Il est là pour passer le pouvoir de génération en génération. Nous avons longtemps attendu. Est-ce que ces octogénaires disparaissent, que la nature fasse le nettoyage? Mais nous avons vu des Wassini Bouazin qui jeûnent reprend les mêmes pratiques que la vieille carcasse. Ils sont là pour rester. Ils ne sont pas là pour changer. Rien que pour analyser cette situation, pour comment prendre la décision en vue des élections de 2024, il faut voir l'état d'esprit du peuple dans lequel il se retrouve. Le peuple qui a marché à partir du 16 février 2019 jusqu'à carrément l'arrêt des manifestations, quand ils ont pondu la loi 87 bis, ils ont menacé tout le monde à mettre tout le monde en prison. Le peuple, il a peur. Le peuple, il souffre. Le peuple, là, présentement, il souffre sur le plan de santé. Vous savez qu'il n'y a plus d'importation de médicaments. Ils sont en train de jouer avec le générique fabriqué en Algérie. Et là, je suis un expert en développement de médicaments, je peux vous en parler. C'est un véritable danger. Ils sont en train de tuer le peuple et le peuple ne se rend pas compte. Et le problème, c'est que même les spécialistes, les praticiens se rendent complices. L'Algérie n'est pas en capacité de produire des génériques. Et elle est en train de se foutre de la gueule du peuple. Sur plan de santé, le peuple souffre. Sur plan économique, il souffre. Sur plan d'éducation, il souffre. Le peuple souffre sur tous les plans. Le peuple cherche au minimum à retrouver les conditions d'avant 22 février. Ça veut dire de l'ère Bouteflika. Il espère retrouver ses conditions minimales pour vivre un peu, pour respirer un peu. Le peuple, il est terrorisé. Il y a un arsenal juridique mis en place par le pouvoir actuel qu'on n'a jamais vu avant. C'est la dictature absolue. Le peuple, il a peur et il a raison. Nous sommes tous, nous faisons partie du peuple. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas rentrer au bled parce qu'on a peur d'être emprisonné. Nous avons peur. OK? Donc, les éléments, quels seront les éléments déclencheurs d'un probable soulèvement populaire, on ne peut pas les prédire. Le peuple, il est dans le selmia, dans le pacifisme, il ne veut pas verser dans la violence. Et dans ces conditions-là, il réduit ses chances de se soulever contre un système qui oppose une violence féroce. Donc, pour espérer que le peuple revienne sur la scène politique, les chances sont minces. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les opportunités. Là, il faut se poser la question. Est-ce que on va arrêter tout, attendre? Est-ce que le cycle perpétuel du pouvoir de 5 ans, 5 ans de présidentiel, 5 ans de parlement, 5 ans, 5 ans, 5 ans, quand est-ce que ça va se régler? On ne sait pas. Ou bien, est-ce que on va être intelligent, imaginatif, choisir une opportunité qui s'appelle la présidentielle? Et le pouvoir, il va organiser les élections, nous allons participer dans les mêmes conditions dans lesquelles il va participer lui-même. Nous allons désigner un seul candidat et il faut qu'on arrive. Nous sommes des êtres humains qui ont une tête, on a une jugeote, on doit réfléchir, on doit mettre nos égos de côté, on doit tous s'unir derrière un candidat d'ouverture. On va l'appeler un candidat d'ouverture. Qui va nous préparer, avec lequel on va préparer une ouverture démocratique. Ici, on organise le pouvoir, aux yeux de l'opinion internationale, il ne peut pas empêcher une autre candidature en dehors d'Abdelmadjid Tebboune. Il ne peut pas. Sinon,
il va juste truquer les élections, Kamel.
Malich, il va truquer, ça va être une occasion pour démontrer au peuple que, finalement, ce pouvoir, nous lui avons donné la chance. Il a pris le pouvoir, ça fait 2 ans, il n'a rien foutu. Il n'a rien fait. Il est en train de pousser la situation à s'empirer de jour en jour. La gestion du Covid, c'est les citoyens qui ont acheté le matériel d'oxygénation, c'est le matériel paramédical, c'est le peuple qui a acheté les médicaments. Le peuple pouvoir était absent. Nous lui avons donné la chance de faire des choses et il ne l'a pas fait. Il nous reste, nous-mêmes, à nous organiser. Soit on organise les élections. On prend le contrôle de ces élections et on gagne. Soit ces élections-là vont servir d'éléments déclencheurs pour abattre définitivement cette dictature qui reste au pouvoir. C'est une opportunité à ne pas rater. Voilà, merci. Dans les deux cas, le peuple va reprendre la scène politique. Dans les deux situations, il s'agit de reprendre la scène politique.
Merci, voilà. Kamel. Merci, Abdelaziz.
Je veux un peu compléter ce que je disais parce que j'estime, Rabih, que c'est pour apporter ce qui est lié comme élément de réponse à une question difficile. C'est ça, militer. Alors, je dirais par rapport aux interventions de nos deux amis également invités au même titre que moi, que je rajouterais, attention, on a l'organisation et vous parlez surtout de structuration. Donc, la structuration suppose qu'on est déjà dans une sorte d'accord pour arriver à quelque chose de concret. Quand j'ai évoqué les dangers, c'était aussi pour, mais il ne s'agit pas de se laisser dépasser par sa propre colère de révolutionnaire, sa colère de trouver que c'est malheureux pour que l'Algérie soit dans cet état, c'est de construire ensemble le discours partagé. Je ne dirais pas consensuel, puisqu'on a le droit d'avoir certaines différences les uns et les autres, des groupes et d'autres, des partis et d'autres. Mais là où je partage, et ça fait sourire, c'est que oui, les égos, il faut que ça disparaisse. Ça y est, on n'a plus besoin de s'étaler ou de revenir à l'idée que moi, je suis mieux que l'autre et puis dire « venez à moi ». Non, c'est venir ensemble. Et c'est ça l'intelligence collective qu'a apporté le Hirak. Ça veut dire que ce Hirak, demain, quand il entendra ce discours cohérent qui sera construit ensemble, et on est dans les réseaux et on va œuvrer tous pour ça. On va œuvrer, je dis bien, tous, en regardant dans cette direction, demandé par le peuple, par le Hirak algérien. Si on est dans cette offre-là, les gens seront à l'écoute. Et quand je disais « action », chacun mène les actions qu'il peut en sachant la localiser. On fait des choses, on ne prétend pas l'exhaustif, on ne prétend pas l'accord et l'adhésion de tout le monde, parce qu'effectivement, il y a toujours des opinions et d'autres. En revanche, le fait d'être comme ça, chacun montre de façon transparente ce qu'il porte et ce qu'il est capable de porter dans la cohérence qu'il veut. Nous, on a des éléments de cohérence, on les affiche. Celui qui n'est pas dans cette cohérence, il n'y a pas besoin de discuter, on n'est pas d'accord, il faut trouver le consensus sur les choses où tout le monde est d'accord. Maintenant, me faire dire que je n'ai pas répondu à la question, c'est non. Je disais justement, s'il y avait cette… Donc, en disant dans ma lecture, en arrivant à une structuration, qu'il y ait un candidat unique de l'opposition, pourquoi pas? Pour le moment, on ne voit pas comment et quels seraient les éléments qui seront, on va dire, consensuels, d'accord pour toute l'opposition, et d'être dans une Algérie qui bascule démocratiquement. Allahi Berk, si on arrive jusque-là, participer. Mais participer à quoi? À une élection où je disais que la première étape d'un processus électoral, et je dois m'expliquer davantage sur ce que j'appelle processus électoral, qui est en fait sa véritable définition comme processus d'ailleurs, les cinq étapes de ce processus. Le premier intègre l'idée que les gens peuvent s'exprimer librement, le fait qu'il y ait équité dans les chaînes, dans les radios, dans les journaux, qu'il y ait liberté du journal, qu'il y ait… Tout ça n'y est pas, la première n'y est pas. Et je peux vous citer les cinq pour partager avec vous. Donc, la première, c'est la source des éléments d'entrée pour une élection, quelle qu'elle soit. Les éléments d'entrée eux-mêmes à analyser, les étapes de l'élection, donc là, c'est plutôt matériel, les éléments de sortie et les destinataires des éléments de sortie. Quand je dis ça, je vous invite à plus loin. J'invite toutes les tendances, tous les partis, tous les militants à cela. Quand on a relevé que ça ne va pas, est-ce que par ça, LFPA ne dit pas on ne va pas aux élections? Si on trouve un moyen de pallier ce défaut et de trouver comment surveiller, parce qu'il y a, quand on dit étape d'un processus, il y a les contrôles, les surveillances, les mesures à chaque étape. Si on trouve moyen de faire cela, si on est dans une structure qui permet de le faire, le peuple n'attend pas. Donc, on fait le bien, il y a un peu de temps.
Merci, Abdelaziz. Majid.
Moi, je suis vraiment content que déjà, on est rendu à canaliser un petit peu sur ce point de présidentiel, où on trouvait un présidentiable contre Tebboune. pour revenir à l'idée qu'a dit Kamal, que j'adhère aussi, ce n'est pas un petit peu un préambule pour la mienne, c'est qu'il faut rentrer justement dans le jeu du pouvoir et les mettre le dos au mur quasiment, parce que la gestion de la pandémie, la gestion de l'économie et tout le kit qui des constats d'échec depuis 2019 avec ce nouveau régime, en faisant les élections, justement, même s'ils arrivent à les truquer, ben, c'est déjà une préparation pour faire sonner l'alarme pour le peuple algérien que, malgré tout, en respectant le droit constitutionnel des élections en Algérie, ils sont toujours là à truquer. Donc, ça va être déjà un point de plus, mais quand avoir une bad luck dans la marchande, dans une bonne chose, et pour se préparer pour 2029. Donc, ceci étant dit, c'est déjà quelque chose de construit, même si on était dans le négatif, mais au moins, ça a donné quelque chose que le peuple algérien va quand même pouvoir s'y préparer pour 2029. Maintenant, concrètement, ce qu'on pourrait faire pour 2024, c'est, pour répondre à la question de Rabah et de Mohand, tous les opposants qui n'ont des partis, qui ont de la misère à se réunir entre eux autres sous des pressions et puis tout ce que le pouvoir leur fait subir. Ben, toi-même, Rabah, tu as essayé d'inviter certains partis politiques, justement, ils ont eu peur ou bien ils ont certaines problématiques à ça. On pourrait leur tendre encore une autre fois la perche jusqu'à. On a encore le temps. Et pourquoi pas ne pas faire ça en plusieurs rounds des partis politiques ainsi que des figures emblématiques du Hirak ainsi que des partis politiques qui sont très significatifs démocratiquement, à les inviter à Alterna TV pour justement faire le constat de la situation politique et déterminer leurs préoccupations et surtout leur feuille de route pour 2024, parce que, après tout, rien n'est encore non jouable, mais c'est jouable, quitte à rien, n'a rien, comme on dit, parce que si on boycotte, ben, ça va être encore belote 2029, 34 et 2039, c'est quasiment encore une autre décennie qui va se rejouer, c'est notre génération, c'est nos enfants qui vont revivre encore le cauchemar de Tebboune bis ou bien Bouteflika bis. Donc, je trouve que le moment est opportun d'agir dans ce sens. Numéro un, c'est de relancer tous les partis politiques à s'exprimer sur Alterna TV. Comme on dit, ça va être un canal qui va être, pour ne pas dire officiel, qui va être quand même très, très respectable. Et puis, tous les gens vont se canaliser par rapport à ça. Et puis, donner la chance à tout le peuple. Moi, je dirais encore plus loin, pourquoi ne pas inviter les autorités algériennes en tant que telles, par exemple avec le réseau, c'est pas mal, la Mamra qui fait partie du ministère des Affaires étrangères, qui représente aussi la communauté extérieure de la diaspora. Ben, moi, personnellement, j'ai le goût de le voir lui-même, de l'inviter, de dire qu'est-ce qu'il en est des élections 2024. Nous, on a le goût de présenter un présidentiable contre Tebboune. Quelles sont les garanties que pouvait nous donner? Par exemple, si ben c'est sûr que lui va parler au nom du régime par rapport à ça, mais on pourrait leur suggérer de façon très intelligente. Écoutez, vous savez que bien maintenant, avec l'affaire des Canadiens qui sont arrêtés en Algérie, vous savez, l'affaire mondiale du Canada qui sont derrière ça, ben, on a encore le goût de dépêcher des autorités étrangères pour pousser un petit peu le bouchon de telle sorte qu'à respecter les élections 2024 pour que l'opposition puisse donner un présidentiable. Et c'est là où réside justement l'intelligence de la diaspora à forcer le régime algérien à ouvrir les élections de façon transparente avec une surveillance des observateurs internationaux. C'est sûr qu'eux, ils ne vont pas apprécier ça, mais quitte à passer par là. Et puis, dans chaque wilaya, former tous les gens qui vont contrôler les élections par le chat, tout simplement. Et puis, ça va être une première expérience démocratique qui aura du bon sens. Moi, je trouve que ça pourrait être encore faisable et jouable, mais à condition que l'opposition doit présenter leur présidentiable qui va faire le consensus minimum de 65-70% avec approbation numérique, mais qui va être soutenu par des opposants politiques de toute tendance, évidemment, qui respectent les règles démocratiques, par des avocats et des gens de la loi, ainsi que des entrepreneurs et des gens économiques, et évidemment, toute la masse du peuple.
Merci, Majid. Mohamed.
Juste activer mon micro. Alors, je sais que la question que j'avais posée au début, je voulais d'abord qu'on fasse un préliminaire ou des préliminaires sur la situation politique, l'historique qu'on connaît de notre pays, notre héritage. On est peut-être tous les cinq ici, on va dire un peu âgés par rapport à l'âge de la militance, comme on dit. Quelqu'un milite depuis 20 ans, un autre depuis 40 ans. Donc, on est l'histoire de notre pays. Si ce n'était pas un parti, c'était un syndicat. Ce n'est pas un syndicat, c'est une association. Moi, je parle depuis l'avènement du Hirak. Est-ce qu'on a une vie politique? Il y a eu une réponse. Je la prendrai telle qu'elle. Mais je veux continuer. Je comprends l'état d'esprit de nos trois. Je crois le comprendre. Hein. Je ne vais pas faire de prétention là-dessus. Je l'ai dans ma tête et je le dis comme ça, tel que je le pense réellement. Aziz et Majid, avec un état d'esprit non seulement constructif, mais de construction, des propositions concrètes, mise en place de structures, une fondation, des propositions concrètes de Majid Apad, un citoyen algérien vivant à l'étranger, mais qui pense non seulement à son village, à sa famille, mais à son pays, à sa patrie, et qui souhaite qu'il y ait des solidarités comme ça à travers un soubassement moderne, tout ce qui peut s'offrir aujourd'hui à travers les réseaux, Internet, etc. Construire ça, ça se construit aussi comme ça. On construit la citoyenneté à travers ça. C'est du concret et j'apprécie beaucoup ça. Et je sais que derrière Majid, derrière Aziz, il peut y avoir encore beaucoup d'autres Algériennes et Algériens qui auront une pierre à poser comme ça dans l'édifice à construire. Je comprends aussi notre ami Kamel, qui d'un côté dit « faites attention, le bras de fer là, en acier du pouvoir va vous écraser. Ne dites pas le pouvoir n'a pas de volonté. » On a compris les concepts, Kamel. Avançons pour qu'on sache. Parce que de l'autre côté, tu dis « il y a des expériences dans le monde. Regardez le Chili. » Ou contemplant l'expérience du Chili. Il n'y a pas que le Chili, il y a encore d'autres pays. Le Brésil, un peu plus au nord. Ils l'ont fait, oui, ils l'ont fait, je suis d'accord avec toi. Même dans des situations les plus difficiles, des hommes et des femmes organisés, solidaires, ont fait face à Goliath, comme on dit, hein, au monstre. Et ils ont fait la démonstration que c'était possible certains choix qui pouvaient, a priori, paraître pas du tout tenables. On ne peut pas aller dans ce sens, on connaît le pouvoir, mais il ne respecte pas les règles du jeu. Tu lui dis, viens, on va jouer la boxe, mais lui, il se prépare avec d'autres armes, il te tire avec une tire-boulette de loin, et il te prend, il te fait le chantage sur tes enfants, qu'il prend dans la rue avec ses policiers, etc. On peut le faire. Mais n'oublie pas une chose, Kamel, l'opposition chilienne, sa vraie bataille, ce n'était pas le moment où ils allaient confronter Pinochet et tout le système qu'il a mis en place depuis les années 70. C'était les vraies batailles, ça se passait aux États-Unis, ça se passait en Europe, quand il fallait unifier l'opposition, particulièrement l'opposition de gauche réformiste et la droite républicaine. Et d'autres groupes, particulièrement de syndicats, il y en avait beaucoup. Ils ont fait un travail monstre, un travail de fourmi sur lequel il n'y avait pas beaucoup de bruit. On ne parlait pas comme sur Alterna ou sur des journaux, on en parlait après. Mais pendant le moment, dans les pires moments, c'était des choses quasi clandestines, quasi tues, on les tue, on ne parle pas pour ne pas susciter de divergences, de paroles, etc. Qu'est-ce qui se fait, mon ami Kamel, sur ce plan-là, et qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne demande pas qu'on condamne des attitudes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui avons fait l'expérience du Hirak et on a compris qu'on avait du mal à aller vers une dynamique de convergence. Dire que l'Algérie que nous allons construire de demain, parmi nous, il n'y a pas de Khomeini, parmi nous, il n'y a pas de pro-généraux, parmi nous, il n'y a que des Algériennes et des Algériens qui veulent vivre ensemble dans leurs différences. Comment on fait pour aller ça? C'est quoi pour toi le candidat du consensus qui va représenter l'héritage, l'état d'esprit du Hirak? Des millions d'Algériens, on se rappelle d'eux, ces premiers mois de février 2019, et on remonte jusqu'à plus de 6 mois plus loin. Ça veut dire quoi, ça? Et puis une dernière question pour tout le monde. Ça demandera peut-être, je ne sais pas, des spécialistes, mais tout Algérien peut répondre à cette question. Regardez, j'ai une question très précise. Est-ce que l'institution militaire, telle qu'on la connaît chacun de nous personnellement, est-ce qu'elle est dans un état d'esprit d'accepter la compétition politique libre? La compétition politique libre, c'est-à-dire qu'elle est prête demain, si le candidat, on va entre guillemets, ça ne se dit pas, du Hirak va gagner les élections demain, elle va l'accepter.
Elle va merci l'accepter. Mohamed.
Ok. Voilà, dans cet état d'esprit.
Merci Mohamed. Kamel, vas-y.
Mohamed, vraiment, tu as été clair et très limpide, mais je vais te répondre honnêtement. La diaspora, elle peut jouer un grand rôle. Elle le fait déjà. Elle le fait. Elle le fait, mais peut-être qu'elle ne le fait pas assez. Nous sommes confrontés aussi à un problème de... Il est particulier en Algérie. Ce nationalisme chauviniste qui a été créé par le système autour de la guerre de libération, autour de la fierté, autour de comment s'appelle déjà la enfin, tout ce qui vient de l'étranger est diabolisé. Tout ce qui vient de l'étranger est manipulé. Vous faites une, ils savent que la diaspora s'organise, leurs canaux de communication vont commencer à battre les tambours. C'est les Juifs qui sont en train de financer l'opposition à l'étranger. C'est que nous pouvons faire, nous sommes en train de faire. J'ai été en France cet été pour des vacances, pour me reposer parce que je ne pouvais pas y aller chez moi en Algérie. Mes vacances se sont transformées en vacances politiques. Je n'ai pas arrêté de rencontrer des amis en France que j'ai connus à travers Facebook, certains que j'ai connus sur le terrain en Algérie, ou bien à travers les médias alternatifs comme ça, et je me suis obligé de les rencontrer. J'ai été les voir. Et cette problématique de convergence était au cœur des débats. Comment dépasser les divergences? Comment dépasser l'ego? Comment se réunir? Comment se réunir sur le minimum commun? Et lors d'une, pour répondre à ta question, quel est le candidat imaginaire pour le soutenir en 2024 ou à une autre échéance? Elle m'a été posée comme question. On était dans un café. Un camarade, il m'a dit, est-ce que tu vas soutenir X si elle se présente aux élections? Je n'ai pas réfléchi une seconde, je lui ai dit oui, je le soutiens. Pourquoi? Ce n'est pas sa personne qui m'intéresse. Si cette personne fait le consensus, il va s'engager sur un agenda pour ouvrir le champ politique à l'avenir et lancer les chantiers de construction sur tous les plans, je le soutiens, je n'ai aucune limite et je peux soutenir tous les candidats possibles. Pourvu qu'on s'entende sur un minimum commun qui va permettre l'ouverture démocratique, qui va permettre de créer les conditions de l'alternance au pouvoir de manière pacifique. Et c'est ce qui m'intéresse. Je ne regarde pas les personnes, je regarde une vision, un programme, un objectif. Voilà ce que je soutiens. Et nous nous sommes mis d'accord. Je lui dis indépendamment de cette personne. Il était ancien ministre, ou il était dans le système, ou il était dans l'opposition, il était pro Saint-Égidio, il était contre Saint-Égidio. Ça ne m'intéresse pas, ça c'est du passé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les jalons que nous allons poser maintenant. Nous allons soutenir une personne qui va respecter le contrat qui va être établi par ceux qui vont accepter le consensus. Donc, on ne va pas s'attarder sur le nom de la personne. Qu'il s'appelle X ou Y, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ça, c'est réglé. Et je pense qu'il y a une disponibilité à aller vers ce terrain-là. Parmi les personnes que nous connaissons, il va y avoir certaines qui vont mettre à jouer le rôle de lièvre avec le système. Ils vont jouer le rôle de lièvre parce qu'ils ne pensent pas à l'alternance, ils ne pensent pas au choix du peuple, ils ne pensent pas. Mais quand on se met d'accord tous ensemble, une majorité, je ne vise pas 100%, une majorité de personnes, une majorité de courants politiques qui vont représenter la majorité des Algériens, et on va y aller forcer la main au peuple pour nous accompagner dans cette démarche-là, ça, c'est possible. C'est possible. Il faut faire attention aussi. Le discours du pouvoir, c'est un discours qui détruit toute initiative. Tu as dit, c'est vrai, l'opposition chilienne s'est construite aux États-Unis, ils ont construit les liens et tout ça. Ça a donné la création de la concertation et ça a donné la création... Il y avait l'exemple du Chili exactement. Comment s'appelle déjà Ricardo Lagos, je pense. Quand il savait au premier mandat, premières élections, c'était 94, je pense, 90, il savait qu'il avait, il n'avait pas la chance de gagner les élections. Il s'est dit, je me retire, je vais laisser la chance à celui qui va. Parce qu'il y avait deux personnes qui ont joué le rôle. C'était Ricardo Lagos et Patricio Aylwin, qui étaient les principaux unificateurs du courant démocratique, du courant de l'opposition. Et Lagos, il a vu qu'il n'avait pas de chance de gagner devant Aylwin. Il lui a laissé la place. C'est ce qu'on demande en Algérie. Tu sais que tu peux avoir des ambitions. Tu veux devenir président, oui. Mais nous ne sommes pas dans une échéance où tu vas faire passer tes ambitions avant la sauvegarde de la nation, avant la sauvegarde de la démocratie. Donc, tu passes aujourd'hui. Tu donnes la chance à celui qui est capable d'être porté par le peuple, qui est capable de rassembler le maximum autour de lui et de gagner ces élections-là. On va ouvrir le choix, la voie vers la course après. Tu tenteras ta chance dans 5 ans. Si tu gagnes, tu vas respecter le contrat et tu es dans le processus démocratique. Donc, nous sommes d'abord à une étape où nous devons construire, je suis d'accord avec notre ami, un discours qui va rassurer le peuple, qu'il va aussi acculer ce pouvoir. Parce que notre discours dans l'opposition, il n'est pas rassurant, il est divisé, il est multicolore, il n'est pas porteur d'un message d'espoir. Donc, un discours porteur d'un message d'espoir, et c'est possible. Donc, pour répondre à la fin de ta question, est-ce que les militaires seront capables un jour d'accepter la course au pouvoir? La réponse, elle est dans la Constitution. Elle vient d'être constitutionnalisée. L'armée nationale populaire, qui s'appelle l'ANP, et la digne héritière de l'ALN. Qu'est-ce que ça veut dire? Une lecture politique à cette phrase-là qui est constitutionnalisée, elle te dit l'ALN a libéré le pays des mains des colons français. Elle a géré, elle a passé le pouvoir à l'ANP, elle lui appartient. L'armée est l'État. L'armée, c'est l'État. L'armée, c'est tout. D'ailleurs, ils le disent. L'armée, c'est la colonne vertébrale de... Non, l'armée n'est pas la colonne vertébrale du pouvoir algérien. C'est la justice qui doit être la colonne vertébrale de l'État algérien. L'armée est une institution. Elle n'est plus rien d'autre qu'une institution qui va garantir la stabilité du pays et des frontières. La sécurité des frontières. Donc, la question, elle est là. Arrêtons de croire que demain, il va y avoir ceux qui tiennent le pouvoir et vont le lâcher un jour. Non, il y a on peut avoir parmi les anciens militaires qui croient que l'armée doit se retirer du pouvoir. On peut croire à ça. Mais dire que les militaires qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, qui ont le pouvoir entre leurs mains aujourd'hui, décideront un jour de laisser le peuple choisir, ça, il faut l'enlever de la tête.
Merci.
Juste pour finir, nous sommes sur le chemin de l'égyptianisation de l'Algérie. Nous sommes sur le chemin, ils sont en train de calquer le modèle Sisi. L'armée partout. Vous allez voir l'armée qui va gérer les hôtels. Vous allez voir l'armée qui va gérer les usines de fabrication. Zalamet. Zalamet va être fabriqué par l'armée. L'armée, qu'est-ce qu'il va faire dans sa tête? Elle va s'occuper de l'essentiel pour fabriquer l'essentiel. Ils sont en train d'acheter les textes, les Sony textes, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils sont en train de s'immiscer dans le processus économique, dans le secteur économique. Ils vont assurer une stabilité sur le plan économique, le minimum pour le peuple, pour le calmer, et le reste, ce n'est pas leur affaire.
Merci, merci Kamel. Je ne sais pas si vous faites attention, il y a des questions qui vous sont posées par les internautes. Il y a Halim Hachicha qui nous dit quels sont les critères du candidat consensuel. Il y a Elias Amin, un autre ami aussi, qui a l'habitude de commenter nos lives, il vous dit « Jetez un regard sur ce qui se passe à Place de la République. » Il parle d'Agora Kermesse, de chacun pour soi. Donc, sur quelle base, comment construire cette unité pour 2024? Visiblement, il y a plusieurs qui ont doute. Abdelaziz, pour la question de Mohand.
Oui, d'abord pour la question de Mohand, et puis très rapidement, je vais être très synthétique. Ça fait 1h30 que l'émission dure, donc pour les auditeurs, je pense que c'est important des fois d'écourter. Oui. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je vais le dire à nos chers compatriotes, j'ai de la fièvre et je ne peux pas rester beaucoup plus longtemps. Donc, de façon, d'ailleurs, ça me pousse à être très synthétique. Sur l'armée, nous devons contraindre par notre attitude déterminée que l'armée doit être une institution qui ne se mêle pas de politique. En d'autres termes, nous ne parlerons plus d'occulte, de considération où un tel a dit à un tel que tel groupe ou tel général est contre tel. Nous ne voulons rien savoir. C'est-à-dire, si il y a cette structuration souhaiter, ou quelle que soit la forme, ou une autre forme de combat, et de ne pas participer aux élections de 2024, d'avoir une position forte du peuple algérien, de toutes les façons, pour l'armée, nous devons rester très clairs, une institution qui doit quitter le champ politique et ne se prononce plus jamais sur les considérations politiques. Ce sera notre institution, et bien sûr que nous protégerons, comme tous les pays développés et démocrates savent le faire, ils ne parlent pas de leur armée. Nous voulons en arriver là. D'une part. Après, sur les remarques donc des auditeurs, de dire « regardez ce qui se passe à la Place de la République », moi je pense que c'est dans la normalité des choses, des groupes et d'autres. Il y a plusieurs raisons. Je ne veux pas qu'on aille justement dans tout ce qui peut faire diverger ou faire taire des gens parce qu'ils s'expriment d'une façon. C'est ce que nous produisons et c'est de ça que je suis content que mes amis reprennent ça pour notre discours qui doit être à la hauteur des aspirations du peuple algérien, pour que je pense que tous, on est tous comme ça, c'est humain, et par conséquent, ça va se lisser tout ça. Je ne peux pas enlever le militantisme à des gens sous prétexte qu'ils militent différemment de moi. En revanche, au bout d'un moment, au bout de ces 3 ans du Hirak, au bout de ces 3 ans de ce pouvoir à qui on dit « le compte n'y est pas », eh ben pour le Hirak, il faut qu'on soit critique envers nous-mêmes, pour aller vers, je rappelle que j'avais annoncé que nous souhaitons et nous nous projetons et nous apportons ce que nous pouvons pour la phase 2 du Hirak. Avant de vous quitter, s'il m'est permis.
Bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être resté aussi longtemps.
Et à suivre, de salutations aux avocats, les Ramidaf dans des conditions, et puis ils connaissent les lois. Parce que malheureusement, la loi en Algérie ne veut rien dire. Les constitutions, les kutbours, les textes de loi, il n'y a rien de vrai dans ça. Ça veut dire que quand les avocats se taisent et disent « on n'a plus rien à dire », c'est pour dire « marakom chitabkof l'kanoun ». Ça veut dire que la justice, évidemment, loin de là, n'est pas indépendante. « Tahiyya lahum l'hadlkul muhamin » qui n'arrête pas. Et je rappellerai, comme tout le monde, ça fait partie des consensus de toutes les Algériennes, tous les Algériens. Quel est le maire d'Archigoula Hatab el Kilma? El Hurri, الشيعيه لمعتقل الحراك كلهم وما نفرقوش بيناتهم كلهم. Voilà, en Algérie, on les comprend. On ne leur en veut pas, خلاص, ils feront comme ils pourront. Mais nous sommes à leur écoute. Il ne s'agit pas de prendre le dessus ou pas. Inch'Allah, c'est à suivre. C'est un plaisir de vous entendre émettre des idées. Chacun est libre d'émettre. Quand quelqu'un émet une idée, on ne peut pas la réduire comme ça à néant ou vouloir faire passer la sienne. Yallah, yatakum saha. نبدأ بناس تاع لا كومون تاع عين وسارة وبونس ان بريزون اي بي تو لي زوتر الحرية اللي معتقد الحراك لو حراك كونتينيو
يعطيك الصحة ربوسوا عبد العزيز برو اون بون تيزان ا بيانتو ميرسي
ميرسي جو في الفير يعطيك الصحة
ميرسي مجيد اتونتور
ولا ميم كيستيون عبد العزيز الله يشفيك عبد العزيز بو ريبون ديريكتومون لا كيستيون دو محمد بور لو ميليتير. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois le 12 septembre, quand il y avait un émissaire des Nations Unies pour déterminer un petit peu la situation des droits de l'homme en Algérie, ça a été reporté. Évidemment, il y a Anguille Souroche parce que c'était prévu justement que Ali Erdiri, parce que moi personnellement, je suis en communication avec le comité Ali Erdiri en Algérie, je lui suggérais certaines choses qu'il a faites, notamment écrire à la présidentielle, tout ça, pour plaider la cause, évidemment, tout en essayant de le soutenir ici de la part de la diaspora. Et ils sont même partis à la Cour suprême d'Algérie en attendant un petit peu le jugement. C'est sûr que l'armée ne va pas lâcher d'un iota. Et l'espoir de Ali Erdiri en 2019, c'était... la raison unique de se présenter comme candidat officiel contre l'armée. Ils l'ont mis de façon injuste en prison parce que c'était le seul clean soldat parmi les autres. Entre le pire et le mal, il faut choisir entre les deux. Pour 2024, moi personnellement, si on fait des pressions, notamment les Nations Unies, à dépêcher encore un autre émissaire de telle sorte que à faire rencontrer les autorités sur les droits de l'homme en Algérie pour tous les détenus politiques, notamment Ali Erdiri, de telle sorte que à pouvoir le lâcher, c'est déjà être un point de plus, un point de gagné. Parce que c'est sûr qu'on a cette tendance, si mettons, on suppose que Ali Erdiri va être présidentiable en 2024, en contrepartie ou bien en parallèle, l'opposition pourrait préparer un autre présidentiable qui va être, mettons, un vice-président de Ali Erdiri ou bien un présidentiel pour 2029, c'est déjà une bonne chose parce que ça permettra à l'armée de lécher un petit peu de zèle. Pour répondre à la question de Kamel, c'est sûr, dans la Constitution, c'est rendu que l'ANP, c'est quasiment la colonne vertébrale, c'est l'État lui-même. N'oublions pas que la Constitution algérienne a été piétinée plusieurs fois, elle a été changée plusieurs fois. Dans ce cas-là, il faut rentrer un petit peu dans leur jeu. En 2024, si Ali Erdiri sera réélu, c'est sûr qu'il y aura une nouvelle Constitution qui sera faite avec l'approbation de tout le peuple et avoir une Constitution en bonne et due forme qui va être élective et puis durable pour des décennies, ne serait-ce que ce sera même pas intouchable. Donc, ça va être une élection qui aura un peu de bon sens. Donc, c'est un petit peu pour mettre un petit peu les jalons de la nouvelle constitution. Pour répondre à une question de quelqu'un, c'est quoi les critères d'un présidentiable pour le Hirak, il est évident que c'est quelqu'un qui est issu du Hirak et qui répond à toutes les aspirations. Les critères, il suffit de les déterminer, quant à moi, et puis faire tout un référendum numérique. Quels sont les critères qui vont répondre, qu'ils soient d'abord démocratiques, qui répondent aux aspirations d'un simple citoyen. Et bon, les critères, c'est aux avocats ou tous les autres qui peuvent les déterminer avec une touche aussi citoyenne. Donc, le problème ne se pose pas par rapport à ça. Mais une fois de plus, je reviens à l'officialisation d'un candidat qui va être quand même issu de l'opposition, mais cette opposition, il faut l'inviter de plus en plus à s'exprimer, à s'unir, parce que ce n'est pas normal que depuis 2020, moi personnellement, j'ai contacté des opposants des partis politiques, du RCD, du FFS, du MDS, enfin tout le monde, ne serait-ce dans l'espoir d'avoir, de proposer ce que je viens de proposer là jusqu'à 2024, un référendum pour avec une feuille de route, tout ça. Ils ont même pas le professionnel de répondre, ne serait-ce bien reçu ou peu importe, ils ont juste vu. Donc, quelque part, il y a une communication qui ne s'est pas faite et je tiens vraiment à ce que Etana TV va encore relancer un petit peu la balle pour tous les opposants à s'exprimer et aussi tous les nationaux à l'intérieur de pouvoir s'exprimer et déterminer quasiment une feuille de route pour un présidentiel pour 2024. C'est sûr que la tâche, ça va être vraiment très ardue, pour ne pas dire qu'il y a des gens qui disent qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Je suis désolé, ce n'est pas le cas. On est en train de structurer des idées qui auront du bon sens, que ce soit vraiment concrète pour 2024, avec une feuille de route et avec un programme que tout le monde pourrait concéder sur le plan économique, social, culturel, peu importe, de telle sorte, aller de l'avant. Donc, c'est un petit peu dans ce sens. Et il y a quelqu'un que j'ai suivi un petit peu dans les YouTubers, il a un parti politique qui disait qu'il va dévoiler le plan économique et il disait que si maintenant, je trouve que c'est une idée quand même qui a du bon sens. Si on pourrait faire la même chose aussi, si on envoie du courrier et des tweets, des messages à Al-Mouradia ainsi que l'ANP, que le peuple veut avoir une ouverture démocratique minimale, optimale, à organiser des élections présidentielles avec un opposant. Ouvrir d'abord le champ médiatique, évidemment, la question sine qua non de faire sortir tous les détenus politiques afin de pouvoir commencer à aller de l'avant en faisant du tapage médiatique, en envoyant du courrier postal à ça, ça pourrait aider. Mais en contrepartie, la diaspora, comme je l'ai dit une fois de plus, reparler avec les autorités, comme la Mamrao, bien celui qui va le remplacer, et de parler de ça. Moi, je parle d'une expérience personnelle avec les autorités ici algériennes. Depuis 2002, en arrivant ici au Québec, en voyant que les affaires consulaires, par exemple, le passeport, etc., je ne sais pas si ça vous est arrivé vous-même aussi, qu'il faut payer cash au consulat d'Algérie. Je leur ai dit, ça n'a pas d'allure, comment se fait-il qu'on pourrait, pas qu'il y a tu un autre moyen de payer par Interac ou bien par carte Visa pour la traçabilité des agents? Ben, ils disaient, oui, si, c'est vrai, mais il faut, ça prend des études, ça prend pas mal d'affaires. Depuis quasiment 2002 jusqu'à maintenant, c'est quasiment 20 ans et j'arrête pas de les harceler avec ça. Et tout récemment, j'ai vérifié justement au consulat d'Algérie que finalement, ils ont ouvert cette opportunité qu'on pourrait payer non seulement par cash, mais aussi par Interac. Parce que quelque part, moi, j'ai fait une pression individuelle, je l'ai aussi bruité un peu partout. Ça pourrait donner des petits résultats, un petit résultat sine qua non. Et si tout le monde pose des actions de façon déterminée, moi, d'après mon expérience, quand je veux quelque chose, j'essaie toujours de l'avoir et j'arrive toujours à l'avoir. Donc, si moi, je le fais, ben toi, tu peux le faire et toute la collectivité pourrait le faire. Et ça pourrait se faire. Moi, je trouve que c'est toujours faisable. Il suffit de s'organiser, de se structurer sur un projet viable avec la technologie ou bien le concept de SMART, comme on dit. SMART, c'est quelque chose de spécifique, mesurable, qui est réalisable et timetable, c'est-à-dire dans le temps. Il suffit juste de préciser, de cibler l'objectif, on pourrait y arriver.
Merci beaucoup, Majid. Pour répondre à Wissen, qui nous propose d'inviter Hicham Rouibah et Amazir Kateb pour présenter leur travail de constitution citoyenne. Oui. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un tel travail, mais Hicham Rouibah, on a essayé de l'inviter cette semaine, pas plus tard que cette semaine. On a eu une émission sur le projet de mine à Ouadamizor et à Tel Hamza à Béjaïa. On l'a organisé avant-hier, jeudi. Il avait fait un travail, justement, Hicham Rouibah, mais il est trop occupé en ce moment, donc il a décliné l'invitation. comme plusieurs d'ailleurs, comme plusieurs, donc il y a un tas de personnalités qui ont fait des travaux, des études de tout genre. C'est pas facile de les avoir parfois. Donc, je vous laisse un dernier mot. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot chacun. Et puis, on se donne rendez-vous pour une autre fois. Vas-y, Mohand, et ensuite nos invités.
Ah, très rapidement, moi, deux choses. Remercier, comme d'habitude, tous nos amis qui nous ont suivis, qui ont commenté, qui ont posé leurs questions. Et je leur dis encore une fois, j'espère que si on n'a pas répondu à une question, ne soyez pas frustrés. Quoi. On peut toujours le reprendre. Mais alors, merci beaucoup. Alternative vit par votre disponibilité à être toujours présent avec nous et à répéter ça à chaque rendez-vous. Encore une fois, merci. Et j'ai beaucoup aimé l'expression que je connaissais, mais moi, dans le domaine stratégique et du marketing, il a absolument raison. C'est très fécond. Le smart, là, que vient de dire Majid, ben, essayons-le. Il faudrait peut-être l'expliciter pour les militants, pour qu'ils sachent ce que c'est. Et une façon d'exercer la politique, de faire un travail militant de tous les jours, mais qu'on apprenne à orienter notre activité suivant ce critère-là qui s'appelle SMART, pour qu'on ne se perde pas comme ça, on ne perde pas notre temps et notre énergie. C'est vraiment une idée novatrice en politique.
Merci Mohand. Il y a un internaute Ramadan de Kel qui répond à Majid, il dit Al-Mouradien n'utilise pas des tweets, il préfère des lettres écrites, peut-être même pas. Kamel, pour le dernier mot.
Ben, merci pour l'invitation, merci à tous ceux qui ont participé par leurs messages, par leurs questions à ce débat. Et juste pour ne pas laisser certains commentaires, commentateurs ici qui vont partir comme ça déçus. Généralement, dans ce genre de débat, on s'attend toujours à entendre la solution miracle pour sortir de la crise. Nous ne sommes pas là pour donner des solutions miracles, mais la solution miracle pour cette crise algérienne, c'est le débat entre tous les acteurs, entre tous les courants, entre tous les partis politiques. C'est le débat, c'est de là que la solution va sortir, parce que la solution doit être consensuelle. Mais l'essentiel... Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de solution, mais au moins nous avons entamé le débat sur une possibilité, une démarche. Donc, on ne peut pas donner la solution, on ne peut pas donner de description du meilleur candidat, on ne peut pas donner la recette de la meilleure solution. Désolé, on ne peut pas le faire, mais la meilleure recette pour le succès, c'est le débat. Il faut continuer à se parler, il faut continuer à échanger, à chercher le meilleur terrain d'entente. Et c'est comme ça que nous allons réussir à trouver une solution intelligente, smart, comme dit Mohand et Majid. Parce que tous les pouvoirs ont été battus, toutes les démocraties, toutes les dictatures ont été battues par l'intelligence du peuple. Et l'intelligence en a. Donc, merci, à la prochaine.
Merci Kamel. Majid, tu peux expliquer ce que tu viens d'écrire aussi sur le chat au bénéfice de nos auditeurs. Ton micro est désactivé.
Oui, alors pour le smart, ben, comme c'est connu dans l'Occident, même que toutes les institutions, nous aussi à l'hôpital, on utilise souvent ça, c'est que le SMART, le S, ça représente le spécifique, et le M, c'est measurable, le A, c'est available, ou bien l'atteignable en français, le R, c'est réaliste ou bien réalisable, mais timetable, c'est-à-dire dans le temps. Ce qui veut dire dans le cas concret qu'on voudrait avoir nous autres, c'est pour, si on pourrait avoir un candidat ou bien une opposition bien spécifique qu'on pourrait cibler, donc ça pourrait prendre pour le S, et puis qui est mesurable, qu'on pourrait quantifier. Par exemple, c'est quelqu'un qui a un potentiel, qui est venu du Hirak avec un background, qui est du parti politique, qui a un certain charisme, qui est rassembleur, ben, tous ces critères que pourrait avoir la personne en tant que telle, donc c'est un petit peu dans ce sens, et qu'on pourrait mesurer aussi de la part de, qu'on pourrait quantifier soit par des sondages ou bien par des, des qualificatifs à travers les personnes, le oui dire que la personne est appréciée, il est apprécié, et qui peut être aussi un but atteignable. Est-ce que cette personne répond aux critères du contexte en tant que tel, comme sur le plan politique? Et puis qui est réaliste et réalisable aussi. C'est un projet qui est réalisable. Évidemment, le T qui est dans un temps qui est bien défini, qui est bien concret, qui est bien spécifique dans ce cadre, quand on a 2029. Donc, c'est un projet smart. Moi, j'y crois. Si j'y crois, il suffit que tout le monde met sa patte dedans et que d'ici 2029, d'abord, numéro un, c'est prévoir ou bien construire une opposition qui est vraiment, qui a un charisme, qui a un leadership, mais qui s'apprend un chef, parce qu'il ne faut pas refaire l'erreur du Hirak, que ça va être seulement horizontal. Ça va être horizontal, mais ça prend quelqu'un qui va servir de charnière pour pouvoir négocier ou bien pour pouvoir parler avec le gouvernement. Dans ce cas, c'est une crise politique et ça prend par quelqu'un qui est politique. Donc, pour les politiques, eh ben, ça prend quoi? Ça prend de l'argent et ça prend des compétences avec une feuille de route. L'argent, ben, comme on l'a dit, la diaspora, avec 7 millions en Europe, vous savez très bien qu'on peut très bien financer, faire des collectes et puis les acheminer en Algérie avec des personnes qui sont très confiantes et aller de l'avant. Et aussi en Amérique du Nord. Mais ça prend aussi des compétences, des avocats, des chefs d'entrepreneurs, des chefs d'entreprise, tout ça. C'est sûr, peut-être c'est utopique tout ce que je dis, mais c'est faisable. Il suffit juste de bien se structurer. Mais aussi, avec le diable, il faut parfois négocier pour sortir de la crise, notamment avec le pouvoir algérien qui est quand même un régime dur, autoritaire, soviétique, militaire. Ben, il a l'avantage de la manne qui est financière, ils ont de l'argent à gogo. Ben, c'est l'occasion ou jamais de les mettre à l'épreuve. Pourquoi ne pas leur donner des solutions concrètes? Par exemple, la diaspora, elle est prête à aider, par exemple, dans le cas du Covid, ou bien construire des hôpitaux, donner le savoir-faire purement québécois ou bien européen pour les inciter à ne serait-ce que avoir un lien de confiance par rapport à ça. Parce qu'il faut le mettre aussi à leur place, ils ne peuvent pas lâcher comme ça le pouvoir du jour au lendemain s'il n'y a pas quelqu'un d'alternant. C'est sûr que quelque part aussi, ils représentent le néocolonialisme qui sont les étrangers qui sont là, les Américains, les frontiers. Il faut se le dire que s'ils ont un pouvoir qui est autoritaire, qui sert leurs intérêts, ben ça les arrange. Quelque part, nous, la responsabilité de la diaspora, c'est aussi parler avec ces personnes qui sont les Américains, les Européens, de telle sorte que les pousser à faire reconnaître les droits de la personne, de telle sorte que à torpiller le pouvoir algérien de s'ouvrir presque pour le minimum pour un consensus de 2024.
Alors, merci beaucoup, Majid. Ça a été un plaisir de t'avoir enfin sur notre plateau. Tu le disais, ça fait des mois qu'on avait prévu de t'inviter, mais ça ne s'est pas fait jusqu'à présent pour diverses raisons. Mais ça a été agréable de pouvoir échanger avec toi sur la situation politique dans notre pays, sur les perspectives. Merci, Kamel, beaucoup. Toi, tu es donc un habitué, tu es plus proche ici aussi. Ça a été un plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi. Merci, Abdelaziz Ould Ali, qui a dû nous quitter avant parce qu'il souffre d'un léger rhume. Donc, prompt rétablissement, cher ami. Merci à tous les internautes qui ont suivi, commenté ce débat-là. Certains le commentaient à partir d'Algérie. C'est le cas, par exemple, de Mahanna Abdeslam, un universitaire, je le disais tout à l'heure, harcelé par les autorités. On a compris qu'il est favorable donc, à continuer le débat sur la perspective de l'échéance 2024. Vous serez le bienvenu, évidemment, sur notre plateau, comme tous les internautes qui ont commenté ce soir, qui ont l'habitude de commenter. N'hésitez pas donc à nous faire des propositions sur les débats qu'on doit mener, prochainement. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à partager le live, là, à encourager donc Altema TV, à encourager sa chaîne. On l'a écrit tout à l'heure. Il y a une chaîne YouTube d'Altema TV. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à d'autres. Il faut l'encourager. Donc, c'est très simple, c'est gratuit. Donc, allez-y si ce n'est pas encore le cas. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne et faites abonner aussi vos proches si vous estimez qu'on on fait un travail utile. Merci beaucoup. Les...
juste là-bas.
Oui, oui, Mohamed.
Justement, pour dire à Nabila Nouara que l'a absolument raison à propos du SWOT, parce qu'on parle, on a beaucoup parlé de SMART. Oui, oui, on peut faire du SWOT. Quelque chose qu'on peut emprunter à un autre domaine, la condition, et j'ai bien compris, mais j'ai dit tout à l'heure, s'il l'a introduit, ce n'est pas par hasard, il le pratique. La condition, c'est la rigueur de l'application. Le SWOT peut être utilisé dans l'univers politique, de la militance, de l'engagement des organisations.
J'affiche le commentaire de Nabila Nouara. Oui.
Voilà, exactement. À la condition de l'appliquer avec rigueur dans le domaine politique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mohand. Merci, chers internautes. À la prochaine fois. Donc, il y a aussi, je dois le rappeler, on a fait un entretien avec Mohamed Tadjadid qu'on a diffusé en différé. Il est sur la page Facebook, il est sur YouTube. C'est intéressant de l'écouter. Allez-y. Il dure une vingtaine de minutes. Bonsoir à tout le monde. Merci.
Merci beaucoup.
يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحريه يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطيه هاك الورد زيد الياسمين في مسيره سلميه عالتغيير معولين
اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري
الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشرة سنين تدمر عشرة والو مازل ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش
الشعب يبيل 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 يبيل
يا بلادي بكا وكدموع ميساج قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين
يا تزاير في الباين راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر